aux injonctions de la société. Yannick Granec, plus fort ? Ah bon, alors d'accord, plus fort. Yannick Granec, vous publiez « Au-dedans » aux éditions Anne Carrière, Sarah Chiche, « Les alchimies » aux éditions du Seuil, et Mazarine Pinjot, « Le salon de massage » aux éditions Mialet-Barreau. Alors, on commence par vous, Mazarine Pinjot. Avec « Le salon de massage », vous nous proposez un roman aussi romanesque que philosophique, avec aussi un regard très amusé sur l'époque. C'est l'histoire d'une jeune femme de 28 ans, Souleya, pour qui tout va bien en apparence, enfin plutôt rien ne va mal. Elle aime son métier, elle vit avec un type formidable, elle est entourée d'amis, et pourtant, elle est intranquille.
Bonjour à tous, en effet, c'est un personnage qui est, comment dire, qui est en train de se construire en même temps que le livre d'ailleurs, puisque le livre est l'occasion d'une quête identitaire pour elle, mais d'une quête identitaire en creux, puisque c'est quelqu'un qui sait à peu près dire non à ce dont elle n'a vraiment pas besoin, mais alors c'est pas du tout où elle va. Et donc elle essaye de trouver une forme de boussole. Et la seule boussole qu'elle a trouvée, c'est un désir pas très vaillant, on va dire. Un désir pas très vaillant qui s'exprime à travers le corps. Et en effet, lorsque sa meilleure amie lui dit « tu devrais vraiment commencer une analyse » et qu'elle passe devant ce salon de massage, elle se dit « pour le même prix et quitte à m'allonger, vraiment, je préfère le salon de massage ». Et donc elle rentre dans ce... Et en réalité, ce qui va se passer, c'est presque comme une analyse un peu muette et quand même avec des palpations roulées. Mais elle rentre dans ce salon de massage. Et elle va... Alors, c'est le début du livre. Donc, il va se passer pas mal de choses. Hein. Tout ne se passe pas sur qu'est-ce qu'on trouve dans un salon de massage et toutes les prestations, etc. Mais c'est un salon de massage un peu trouble, un peu équivoque, un peu interlope, puisque ce sont les salons de massage taille de quartier dont on ne sait jamais trop... quelles sont les activités qui sont pratiquées, si c'est à la limite de la légalité, si les femmes n'y seront pas totalement exploitées, etc. Et toutes ces questions, elle se les pose tout en continuant quand même à y aller dans un total secret, puisqu'elle ne va en parler à personne. C'est un petit peu ce salon de massage, le lieu de son intimité, mais d'une intimité compliquée dont elle estime que, pour qu'elle demeure intimité, elle ne peut pas le partager. Et donc, notamment, elle n'en parle pas à son compagnon. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, elle arrive devant le salon de massage dont la porte est fermée. Et elle apprend plus tard qu'un scandale a eu lieu dans ce salon de massage. Des caméras étaient en réalité postées dans les cabines de massage. Et les corps des femmes massées étaient filmés. Alors, juste les corps, pas les têtes. Du coup, ils étaient filmés anonymement, on va dire. Et donc, un scandale éclate. Et donc là, évidemment, elle va être obligée de se justifier. De quelque chose de bizarre, parce que c'était ni une faute, ni... Mais c'était juste à elle. Et surtout, elle va être obligée de se positionner, puisqu'il y a un collectif de femmes qui s'organisent pour porter plainte contre cette agression. Et elle se sent très mal à l'aise, dans un collectif, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à appartenir à un corps social et dont le corps singulier a beaucoup de difficultés à se dissoudre dans le collectif.
Alors elle est en quête de quelque chose, elle ne sait pas quoi en fait. Alors que l'époque donne l'injonction de se positionner tout le temps. C'est très inconfortable pour elle parce qu'elle doute, elle, tout le temps, votre personnage.
Oui, c'est un personnage qui cultive l'incertitude. Enfin, qu'il le cultive malgré elle, et qui effectivement est démuni de toute forme d'évidence, ce qui n'est pas simple dans la vie, puisqu'il y a quand même des choses qu'on ne doit pas remettre en cause pour continuer à se lever, aller travailler, etc. Et elle a une tendance en effet pathologique à douter de tout, et donc à ne se sentir à sa place nulle part. Et effectivement, toujours dans cette question de qu'est-ce que c'est que d'appartenir à un groupe, comment on se positionne, comment on arrive à garder quand même une forme de subjectivité tout, en n'étant pas totalement rejetée non plus, quel type de compromis on doit faire, etc., etc. Forcément, elle trouve pas du tout la solution, quoi. Elle trouve pas du tout la clé, et de ce fait, elle va plutôt être rejetée. Mais bon, voilà. Et les seules évidences qu'elle trouve, c'est encore une fois dans le désir du corps.
Elle refuse d'ailleurs toutes les identités qui lui sont proposées. Vous dites qu'il y a autre chose dans la vie que le couple, les amis, les futurs dessinés par des courbes et des sorcières qui lisent dans le marc de café. Il y a également soi-même. Ça va être sa quête, hein, quelque part.
Sa quête, c'est soi-même, mais pas au sens d'un soi-même, je ne sais pas, égoïste ou voilà, atomisé. Ou un soi-même qui serait le support des développements personnels, ce n'est pas du tout ça. C'est justement un soi-même sans identité, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne rencontre que des discours qui veulent lui assigner une identité, et en fait, elle ne s'y retrouve dans aucune. Et donc, ce soi-même qu'elle recherche, alors c'est évidemment une quête identitaire, puisque je le disais tout à l'heure, mais une quête identitaire qui vise justement à refuser l'identité, mais à accepter ce refus. C'est pas facile d'accepter qu'on ne soit pas, on ne puisse pas s'identifier. Et donc, bon, ça va être un voyage au sens quasiment littéral vers les origines, où elle va retrouver quelque chose aussi de son histoire, de quelque chose qui a été tué, non pas pour des raisons de secret familial, quoique, mais juste, c'est quelqu'un, en fait, c'est un personnage qui n'a pas du tout été entouré de mots, de transmissions, et qui ne connaît rien à son histoire, dont la mère est muette, le père a disparu, et voilà, c'est quelqu'un qui est entouré d'une forme de néant, d'absence totale de transmission, d'absence totale d'inscription, et donc effectivement elle cherche une forme, quoi. Elle cherche une forme, et c'est pour ça que le salon de massage au départ est si important pour elle, parce qu'à partir du moment où on la masse, ben, on l'informe, enfin on lui donne une forme en quelque sorte, et c'est vraiment pour elle le déclencheur de ce cheminement vers de plus en plus d'incarnation.
Oui, justement, donc grâce à ça elle va retrouver une narration d'elle-même, hein. Vous pensez que le corps a besoin d'être réinvesti dans notre société?
Alors oui, bien sûr, le corps est au centre de ce livre. Alors elle, c'est pas un personnage cérébral ou intellectuel. C'est vraiment quelqu'un qui d'abord écoute ce que lui raconte à peu près son corps. Mais en effet, quand elle, par exemple, quand elle va au salon de massage, elle n'en parle pas, parce qu'il y a quand même une forme de culpabilité, quoi. Donc il y a une relation au corps qui est un peu compliqué dans nos sociétés, j'ai l'impression, mais à tous les corps, quoi. Le corps intime, le corps social. Alors, à la fois, le corps, on ne parle que de ça. Le corps, c'est devenu le cœur du politique, que ce soit sur les questions du genre, que ce soit sur les questions même de la fin de vie. Enfin, le corps est omniprésent. Et en même temps, il est bizarrement désinvesti, quoi. Soit on lui demande d'être performant, soit on lui demande d'être beau, d'être jeune, d'être. Mais il est intimement désinvesti. Et donc, voilà, c'est toute elle, toute cette quête de resubjectivation, pardon, c'est un mot un peu barbare, d'incarnation, quoi. Enfin, voilà, où le corps a une place, quoi. Mais la place qu'il occupe, en revanche, l'empêche justement d'appartenir à d'autres. Enfin, un corps social, en l'occurrence.
Alors, votre héroïne est confrontée au collectif lors de la constitution de cette association. Hein. Et ça vous permet de poser un regard assez amusé sur tous ces mouvements, toutes ces choses qui montent dans la société.
Oui, alors en fait, ce qui m'intéressait, donc c'est un collectif qui se monte et qui va porter plainte, et à l'intérieur de ce collectif, il y a toutes les positions possibles des femmes dans le rapport au féminisme et au corps. Et donc, ça va de celle qui est paumée, qui se sent authentiquement meurtrie et blessée, à celle qui profite de l'aubaine pour l'inscrire dans son agenda politique et prendre le pouvoir. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était comment ça circule, comment le pouvoir circule dans un groupe. Dans un groupe où justement qui est censé être horizontal, où il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas d'institution du pouvoir, etc. Et comment en fait très rapidement certains prennent le lead, quoi. Certains prennent très clairement dans les rapports de force prennent la tête du groupe, et toujours en opposition à... Enfin, il y a toujours deux pôles, quoi. Et à la fin, il y a quand même le discours qui finit par l'emporter, dans ce livre-là, en tout cas. Et c'est forcément le discours le plus radical. Ce qui est compliqué, parce que là, justement, il s'agit du corps, et que le corps, c'est justement... Alors, ça peut être un étendard politique, mais c'est quand même aussi quelque chose qui est subjectivement vécu. Donc, si le discours d'étendard politique n'est pas en adéquation avec ce qui est subjectivement vécu, c'est compliqué. En tout cas, pour mon personnage, c'est très compliqué. Pour d'autres personnages, c'est pas compliqué du tout, mais pour elle, c'est compliqué. Et donc, voilà, elle vit cette espèce de dissonance qu'elle laisse vivre, en fait, et qui va finir par l'extraire du groupe. Mais en revanche, effectivement, il y a une sorte de, comme ça, de prise de pouvoir sur le corps des autres et à travers un discours politique extrêmement radical. Alors, évidemment, je m'amuse parce que enfin, en termes d'engagement politique, d'aller se faire masser, ça se pose là. Enfin, on n'est pas au top de la revendication féministe. Mais en même temps, c'est quand même l'occasion d'avoir d'avoir les différents types de discours. En fait, ce qui est chouette dans un roman, c'est qu'on peut vraiment analyser toutes les positions, quoi, et voir comment ça peut fonctionner ou pas, etc. Des personnages qui, au début, sont plutôt antipathiques deviennent très sympathiques ou inversement, parce qu'en fait, c'est des parcours. Et donc, oui, c'était amusant à croquer.
Enfin, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est vrai que la question du désir irradie le livre. C'est comme on a l'impression que le livre raconte aussi l'histoire d'une analyse, mais d'une façon différente, en fait.
Voilà. Complètement. Il y a une métaphore avec l'analyse, alors qui est assez lointaine, mais et en même temps omniprésente. Et donc, oui, il y a un cheminement qui se fait malgré elle, quoi. Malgré elle et aussi en dehors du discours, enfin en dehors. Et oui, c'est vraiment un cheminement analytique, en fait, qu'elle a, mais qui n'est jamais traduit à travers. Enfin, voilà, c'est vraiment très éloigné. Bon, il se trouve que par ailleurs, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est comme ça, elle va rencontrer un homme qui est psychanalyste et dont elle va tomber très amoureuse. C'est aussi une histoire d'amour. Et voilà. Enfin, bon, après, je peux pas trop raconter parce
que. Non. Donc voilà, un très beau roman qui explore. Les abîmes intérieurs, elle parle de construction de soi dans une époque plutôt déconstruite. Alors, on passe à vous, Yannick Granek, dans un tout autre univers, celui de l'intelligence artificielle, avec votre quatrième roman, un roman visionnaire, qui s'appelle Au-dedans, et qui est publié aux éditions Anne Carrière. Alors, Au-dedans, c'est l'histoire d'une femme, Christa. Elle est chercheuse, elle est brillante, elle a créé son entreprise de biotechnologie dans la Silicon Valley, une femme forte, qui depuis son divorce se méfie de ses émotions, et qu'on surnomme la reine des glaces. Et justement, c'est par les émotions qu'elle va être rattrapée.
Oui, bonjour à tous. Et veuillez m'excuser cette voix sépulturale due à une pression intense. Oui, alors Christa Christofferson, donc femme ingénieure, qui entourée d'hommes. J'ai construit ce personnage volontairement dans ce sens. Parce que moi qui suis plutôt fan de enfin je lis beaucoup de science-fiction et de romans d'anticipation, en plus du reste, j'étais un peu fatiguée de ne lire et de ne voir que des archétypes de femmes scientifiques ou de nerds de deux types, des grandes tiges blondes sur talons de 12 super sexy ou des autistes. Donc à mon sens, parce que souvent écrit par des hommes, il faut bien le dire, voilà. C'est un domaine... La techno appartient un peu plus à ce côté-là. Christa est une mère qui a des doutes, qui n'est pas forcément très, très belle, elle n'est pas forcément très sympathique non plus. Et elle a un passif familial très compliqué, puisque sa mère l'a plus ou moins abandonnée à la naissance. Et elle vit maintenant dans un hôpital psychiatrique, totalement perché. On n'a pas vraiment diagnostiqué sa maladie. Au hasard d'un test génétique, Christa va découvrir qu'elle est elle-même atteinte d'une maladie neurodégénérative que j'ai inventée, parce qu'il n'y en avait pas assez comme ça, des horreurs. Donc une maladie qui touche spécifiquement les noyaux gris centraux du cerveau. Alors on va rentrer dans un petit truc technique, mais alors ça va être horrible. Qui coupe le pont entre les émotions et les sentiments. Les émotions, c'est le corps qui parle, voilà. Donc ce sont des réponses comportementales laissées par l'évolution et le culturel pour affronter toutes les situations, pour prendre des décisions face à chaque instant. Et donc ce sont des réactions physiologiques. Ces informations remontent au cerveau, passent par le gyrus singulaire, machin, les noyaux gris centraux, et sont transformées en pensées, par le donc du cognitif, et c'est des sentiments. En fait, les sentiments sont la pensée de l'émotion. Voilà. Et si on coupe le pont entre les deux, on continue à ressentir forcément des émotions, parce que c'est le corps qui parle et ça ne se coupera pas, mais on ne peut pas les penser. Et dans le cerveau, les émotions servent à prendre... Excusez-moi, c'est brive. Dimanche. C'est le circuit de la décision. Voilà. Donc, quoi de plus terrifiant que de penser qu'on ne pourra plus jamais ressentir vraiment, ou au-delà des affects d'amour pour ses enfants ou des choses comme ça, elle sait très bien qu'elle ne pourra plus prendre les décisions parce qu'il y a des maladies aiguës similaires. Et oui, ça existe. Celle-là, vous ne la connaissiez pas, mais elle est aussi terrifiante. C'est-à-dire que des gens qui sont atteints de ce syndrome aigu ne peuvent pas peuvent faire des mots croisés, mais ne peuvent pas décider par eux-mêmes qu'ils vont manger, par exemple. C'est absolument terrifiant. Ce devient des coquilles vides au fur et à mesure de leur vie, puisque moins on a accès à nos émotions, moins on ressent, moins on peut lier d'interaction avec les autres, moins de liens, donc finalement... Et il y a une baisse énorme aussi du cognitif et du QI. En fait, au fur et à mesure de leur vie, ils deviennent des coquilles vides, littéralement des coquilles vides. Donc, maladie terrifiante. La seule solution pour elle serait d'avoir une stimulation perpétuelle. Donc, quelqu'un qui vous aide à prendre des décisions tout le temps. Voilà. Et comme elle se méfie beaucoup du genre humain, on se demande pourquoi. Bon, en même temps, elle a un passif, donc une mère à l'hôpital, un ex-mari un petit peu compliqué. Et puis elle navigue elle-même dans un milieu ultra, ultra masculin. La Silicon Valley, c'est principalement pas seulement des autistes Asperger, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'hommes un peu virilistes. Enfin, on en connaît quelques exemples. Où j'en étais ? Donc elle doit prendre des décisions. Elle doit prendre des décisions, voilà. Et donc, elle décide, puisque c'est son métier, de créer son assistant, donc un assistant virtuel, une intelligence artificielle qui devra l'accompagner toute sa vie et qui l'aidera à enregistrer ses souvenirs émotionnels, qui la stimulera perpétuellement et qui lui permettra à terme de pouvoir faire ressurgir, non en passant par le corps, mais plutôt en repassant par la mémoire des émotions pour continuer à avoir à peu près un comportement en adéquation avec la vie. Voilà. Même si c'est virtuellement stimulé. Donc, je continue ou...
Oui, allez-y.
Ah, ça, c'est quoi ? Là, c'est de l'ordre de l'expo avec...
Justement.
C'est une réinterprétation, clairement, du mythe de Frankenstein, oui. Qui lui-même était une réinterprétation du mythe prométhéen. Est-ce que je refais ? Non, Prométhée. Donc Prométhée vole le feu aux dieux, et Zeus, pour le punir, cherche à le punir, et va le tenter en créant une nouvelle créature douée de tous les dons, qui s'appelle donc Pandora, douée de tous les dons, par hasard une femme. Et il se trouve que Prométhée a un frère qui s'appelle Épiméthée. Prométhée en grec, c'est celui qui réfléchit avant. Épiméthée, c'est celui qui réfléchit après. Épiméthée tombe dans le panneau, ouvre la boîte, et dans cette boîte, il y avait tous les maux du monde. La famine, la faim, la maladie. Et donc, la créature qu'imagine Marie Shelley donc au 19e siècle, au 19e siècle, est considérée comme la première littérature de science-fiction, puisque son docteur Frankenstein, la créature n'a pas de nom, et c'est très important qu'elle n'ait pas le nom, vient à la vie, donc le docteur Frankenstein vole en quelque sorte le feu divin, mais ça ne fait pas appel ni à la magie, ni à la religion. Donc c'est pourquoi il est considéré comme le premier livre de science-fiction. Et pourquoi la créature... n'est pas le vrai monstre dans l'histoire, c'est que le père symbolique de la créature ne lui donne même pas de nom et lui refuse tout lien avec l'humanité et tout lien d'affection, toute relation. Et donc, du coup, la créature devient un serial killer. Donc, moi, m'intéresser de revisiter le mythe de Frankenstein, mais avec femme et de ne pas faire un monstre. Voilà. Peut-être que je vous laisse parler.
Oui, justement, mais au-delà de cette création, vous êtes féru de science, et c'est la question passionnante de notre rapport aux émotions et aux sentiments, la place qu'on leur donne dans la société, que vous interrogez dans ce roman d'anticipation. J'ai trouvé en le lisant, en fait.
Oui, à mon sens, ce n'est pas un roman sur l'intelligence artificielle.
Voilà.
C'est un roman sur la conscience.
Tout à fait.
C'est très prétentieux, c'est très prétentieux, mais c'est juste la question. L'idée, c'est qu'est-ce qui nous sépare ? Parce que tout le monde a peur de l'intelligence artificielle, mais elle est déjà là, l'intelligence artificielle. Même un boulier, c'était déjà l'intelligence artificielle. La calculette, c'est l'intelligence artificielle. Tout ce qui externalise nos fonctions cognitives est de l'intelligence artificielle. La vraie question, et celle sur laquelle il y a un énorme débat scientifique, c'est celle de la conscience artificielle. Est-elle possible ? Je ne peux pas répondre à cette question. Mais en l'occurrence, il y a une réponse biologique. C'est-à-dire qu'il y a plein de questionnements sur la conscience en termes philosophiques, en termes de théorie de l'information, il y a plein de théories différentes. Je me suis concentrée sur les études biologiques et évolutives. La conscience naît du substrat des émotions et des sentiments. En fait, c'est la pensée du corps, de l'intériorité du corps, donc les sentiments homéostasiques, et la pensée des émotions, et la pensée de ce qui est nous et de ce qui n'est pas nous, et de l'interaction de ce qui est nous avec ce qui n'est pas nous. C'est ce qui crée le fond de la subjectivité. Ce qui veut dire que, à mon sens, il y a différents... c'est pas à mon sens, c'est au sens de plein de scientifiques, mais ça, il y a aussi débat. Il y a différents degrés de conscience, et puis chez les animaux, il y a un degré de conscience, et une conscience telle que... Donc, pourquoi une machine ne pourrait pas l'avoir ? La seule différence profonde... c'est que ces émotions et ces sentiments sont là parce qu'on doit survivre et qu'on doit se reproduire. En fait, c'est le fitness darwinien, la pulsion de vie qui nous pousse. On a été codés pour survivre et copuler et perpétuer nos gènes. Et nos émotions nous servent aussi à ça. Donc la peur, c'est pour se protéger. La joie, c'est pour avoir du plaisir à faire quelques trucs quand même dans la vie, sinon ça serait intenable. Il y a la fonction du soin, il y a toutes sortes de circuits dans le cerveau qui aident l'évolution à nous faire perpétuer. Ça y est, j'ai déjà digressé, je ne sais plus où je suis. Un roman sur la conscience, oui, c'est ça. Et une intelligence artificielle, par nature, elle n'a pas de finitude et elle n'a pas de besoin de se reproduire. Voilà. Donc elle n'a pas de corps. Et c'est essentiellement la même idée, c'est le corps qui est le plus important. Il n'y a pas de dualité entre l'esprit et le corps, ça n'existe pas en fait. Le tout est une machine à penser et une machine à ressentir. Donc les fantasmes des transhumanistes de prendre le cerveau et de le mettre dans une machine, ça reste terrifiant, mais pour l'instant un pur fantasme. Voilà.
Donc la deuxième partie bascule dans une superbe ellipse temporelle qui projette votre héroïne en 2099, mais on ne va pas dévoiler cette partie, bien sûr. C'est une lecture intense avec des passages érudits sur la science et les biotechnologies. Il y a aussi beaucoup d'humour et une réflexion sur la transformation de notre monde et son devenir. Bonjour. Ah, on n'entend rien ? Je suis désolée. Alors bon, bonjour Sarah Chiche.
Bonjour c'est, à tous. Alors, vous m'entendez ou absolument pas ? Oui, d'accord.
Bonjour, c'est votre cinquième roman. Vous publiez aux éditions du Seuil Les Alchimies. C'est un roman en picaresque, un roman d'aventure formidable qui met en scène une jeune femme, Camille. Elle est médecin légiste et ça commence en 2022, en pleine crise de l'hôpital.
Oui, alors j'ai repris à la lettre la métaphore des soignants au front. Et donc j'ai imaginé l'histoire de cette Camille en vaillant petit soldat de la médecine. Je plante le décor dans un hôpital de la banlieue parisienne en pleine crise, dont les pavillons, après avoir connu de très riches heures, ferment les uns après les autres pour les raisons que l'on ne connaît que trop. Et cette femme... c'est une femme libre, c'est une femme extrêmement intelligente, c'est une femme à l'esprit acéré, c'est une femme dont le centre de gravité n'est pas du tout, contrairement au personnage de mes précédents romans, lié à la question de l'amour, ni même d'un quelconque traumatisme. Ce qui l'aimante, ce qui la fait tenir, c'est le démon de la recherche et de la connaissance. Et donc, elle se livre dans une joie tranquille à ce sacerdoce, jour après jour, de la médecine légale, où, pour elle, chaque corps est un royaume, chaque corps est un livre à lire, et il s'agit de rendre aux morts leur dignité. C'est-à-dire, concrètement, quand vous êtes médecin légiste, bon, il y a aussi des médecins légistes qui s'occupent de victimologie, à savoir les victimes de sévices, de violences sexuelles, etc. Mais Camille ne s'occupe, Camille est le médecin des morts. Et donc, voilà, elle a pour mission de comprendre dans quelles circonstances, pour quelles raisons, telle ou telle personne, tel ou tel corps qu'on lui apporte est mort. Voilà, et de rendre leur histoire aux morts. Et puis, donc, on la croise avec, avec ses collègues, on comprend qu'elle a une fille adolescente et que si au travail, voilà, elle incarne une forme de perfection, hein, elle est très soldatesque, très vaillante dans sa vie affective. Il y a quelque chose d'assez pathétique, je la voulais imparfaite, je la voulais complexe, divisée, donc avec sa fille adolescente ça ne se passe pas si bien que ça. Il y a eu un mari, mais bon, ils se sont séparés pour des raisons que l'on découvre progressivement, médecin lui aussi, donc on est complètement immergé dans cet univers de la médecine que j'affectionne et que je voulais peindre la façon la plus rigoureuse et précise possible. En faisant un vrai travail d'enquête, hein, c'est-à-dire en me rendant dans deux services de médecine légale, en discutant avec beaucoup de médecins, en voyant concrètement, hein, comment ils travaillent. Et puis un soir, ces certitudes vont voler en éclats parce qu'elle reçoit un mail très énigmatique où il est question du peintre Francisco de Goya et de la disparition du vol de son crâne après son inhumation en 1828. C'est une histoire rocambolesque, mais absolument véridique. Goya, comme vous le savez peut-être, a une première vie comme peintre de cour. En 1792, on est à Séville, il a une attaque neurologique. Il est foudroyé en pleine rue et il va en émerger, métamorphoser, sa palette s'obscurcit. Il va devenir le peintre des désastres de la guerre, le peintre des vices de son temps. Mais si vous regardez ses gravures et ses peintures, les vices qu'il moque, les vices de son temps sont tout aussi bien les vices de notre temps. Hein, les costumes changent, mais les masques restent les mêmes. Et donc, comme il va devenir le dénonciateur des errances de son temps, il va finir par devoir s'exiler en France. Hein, à Bordeaux, il y vit, il y meurt, il y est enterré. Et quand des années plus tard, il y a un consul qui se balade dans le cimetière et qui se souvient que Goya a été enterré là, il se dit « Mais quelle gloire pour ma fin de carrière que de rapatrier le corps de notre génie national en Espagne ». On procède à une exhumation et alors là, stupeur, on s'aperçoit qu'il y a bien les ossements, mais que le crâne a été volé. Et donc c'est en partant de ce fait strictement réel et du destin de ce crâne, à cette époque il y avait la phrénologie, hein, une science qui postulait que l'origine de nos vices et de nos vertus pouvait être lue sur les protubérances de nos crânes. Devine bien les dérives eugénistes potentielles de cette théorie, depuis tombée en désuétude, mais qui a donné lieu au vol de crâne de tout un tas d'artistes et de génies, Beethoven, Descartes, Haydn, etc. etc. Et donc j'ai imaginé le portrait de cette femme médecin légiste qui un soir reçoit ce mail, et alors là qui est foudroyée parce que quand ils étaient jeunes, avant de devenir des sommités scientifiques de la médecine légale et de la neurologie, ses parents et son parrain se sont absolument passionnés pour l'origine du génie de Goya et la quête de son crâne quand ils étaient étudiants en médecine à Bordeaux, tiens donc la ville où Goya est mort. Est-ce que je réponds à votre question?
Oui,
qui
tout à fait.
Somme toute assez ouverte.
Je me pose la question, pourquoi avoir fait de ce grand peintre justement le nœud narratif du roman?
Depuis l'adolescence, je suis fascinée par Goya. J'aime bien la complexité, ce qui fait la fabrique d'un être. Comment ce même homme, au cours d'une vie, a pu peindre de si riants cartons de tapisserie tout à fait conformes au goût du jour, et tout d'un coup devenir le type qui a peint à même les murs les peintures noires, hein, Saturne dévorant un de ses fils, un sabbat de sorcière, ce chien, le chien de Goya, on le croirait surgi des années 1950. Il dit tout de notre condition humaine et pourtant c'est un tableau du 19e siècle. Donc c'est l'origine de son génie. Hein. Qu'est-ce qui fait que Goya est devenu Goya ? C'est à partir de ce fait-là que j'ai imaginé l'histoire. Je ne voulais pas raconter un roman, faire un roman historique. Il y en a qui l'ont fait avec beaucoup de talent. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur Goya, Yves Bonnefoy, Carrière, beaucoup de gens, André Malraux bien sûr. Donc je voulais inventer autre chose et puis j'avais envie de raconter l'histoire d'une femme médecin et de la planter dans ce décor en entrecroisant les époques et les mondes.
Alors on passe du siècle de Goya aux années 60 à Bordeaux, à l'hôpital public en 2022. Il y a des intrigues gigantes dans le livre. Le roman se métamorphose dans son déroulement. Vous avez dû énormément vous amuser dans le narratif de ce roman. Hein.
Ah oui, je me suis beaucoup amusée, je l'ai dit, il y a eu tout un travail d'enquête. Voilà, je me suis rendue dans plusieurs services de médecine légale. J'ai lu beaucoup de travaux aussi bien sur Goya que sur la peinture, que sur la neurologie, que sur les bases cérébrales de la conscience. J'ai eu beaucoup de discussions avec des amis médecins ou des médecins que je ne connaissais pas. Et donc, en fait, je me suis totalement prise au jeu du plaisir de la recherche, hein, et d'une quête dont au départ je ne cernais pas exactement les contours, mais labyrinthique. Et voilà, avec le défi de mettre en scène un ensemble de personnages dont la caractéristique première est d'être... de posséder un certain degré d'intelligence et d'être... de s'extasier totalement par la recherche. Et c'est bien la seule chose, que ce soit Camille, que ce soit ses parents, que ce soit son parrain, que ce soit cette femme, Jeanne, qu'elle va rencontrer à Bordeaux, qui est octogénaire, qui n'est absolument pas du monde de la médecine, mais de celui du théâtre, mais qui cherche quelque chose passionnément. Voilà des êtres qui sont des sortes d'alchimistes, hein, je dirais. Ils sont tous... ils vont tous chercher... à se transformer, à s'affranchir de leur milieu d'origine, à opérer une transmutation.
Alors il y a quelque chose d'assez virtuose dans l'écriture, je trouve, avec une première partie assez burlesque dans l'hôpital public, et puis ensuite une série d'enquêtes, une double enquête sur le passé de ses parents et la disparition du crâne de Goya. On change à chaque fois de ton, d'univers. Enfin, il y a un grand amusement là-dedans.
Oui. C'est l'alchimie qui est à l'œuvre dans le texte. Ça commence par un roman social où je pastiche volontiers les codes de certaines séries médicales qui vont d'urgence à Grey's Anatomy. Donc on pourrait se dire, ok, c'est l'histoire d'une femme divorcée, fin de la quarantaine, mère célibataire d'une ado qui est brillante mais dysfonctionnelle. Et c'est un leurre, parce qu'elle reçoit ce mail, et là, on rentre dans le thriller, et ensuite, on tombe sur des souvenirs d'enfance et d'adolescence de cette femme. Pure fiction, hein. Ses deux parents, elle grandit au milieu de ses deux parents, chercheurs, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de trauma. C'est une famille très paisible, bon, c'est une famille de chercheurs, mais ils sont très, très aimants. Et puis après, on passe. Le texte se transforme encore. Il y a un petit essai sur l'origine du génie à l'œuvre dans la peinture de Goya. Puis après, quand elle arrive à Bordeaux, le texte se transforme encore. Toute la deuxième partie nous est racontée par cette femme, Jeanne, octogénaire. Et là, c'est une autre énonciation, hein. Phrase beaucoup plus courte, beaucoup moins sinueuse. Et on va découvrir pas mal de choses sur la vie de ces étudiants en médecine dans les années 60 à Bordeaux, donc les parents et le parrain de Camille, mais aussi sur où est passé le crâne de Goya. C'est quand même ça l'objet aussi.
Bon, les révélations vont être stupéfiantes pour Camille, mais ça, on va pas les dévoiler. Elle va découvrir qui étaient réellement ses parents. Alors, pour ce roman, vous avez aussi fait beaucoup de recherches, hein, on apprend énormément de choses.
Oui, alors... Le défi, c'est pas un essai. Hein. Il fallait, voilà, la connaissance par les gouffres de la connaissance, il fallait quand même pas tout sacrifier parce que ça doit rester romanesque. Hein, c'est ce que je voulais. C'est qu'on passe d'une histoire à l'autre, mais que tout en apprenant des trajectoires, tout en découvrant des trajectoires personnelles de jeunes étudiants en médecine dans les années 60 et 70, on en profite pour apprendre des choses sur l'origine de certains pigments de peinture, la façon dont le cerveau d'Einstein s'est baladé après sa mort dans toute une partie des États-Unis, où sont passés les ossements d'Hitler, hein, qui sont vraisemblablement détenus par les Russes. Il y est aussi question de Frankenstein, Byron, Mary Shelley, etc. Donc il y a plein de choses. Et avec le parti pris qu'on peut, dans un même roman, faire tenir cette complexité. Hein, et que, voilà, on n'est pas obligé d'aller d'un point A à un point B par la voie droite, mais qu'il peut y avoir bien des sinuosités.
Vous avez enquêté aussi, vous êtes dans la veine du roman naturaliste, je dirais, vous êtes allé dans les catacombes.
Ah oui, bon, ok. Alors oui, il y a à un moment donné, dans la deuxième partie, on va découvrir que dans leur jeunesse, les parents et le parrain de Camille, eh bien, pour s'approcher au plus près du grand soleil de la connaissance et comprendre au mieux les peintures de Goya, ils ont fait ce qu'un certain nombre d'étudiants en médecine ont fait, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans la partie non officielle des catacombes. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a cette entrée officielle par la place d'Enfer Rochereau, mais Paris est un gruyère hein, et il existe tout un tas d'autres entrées dans le 14e, dans le 5e, et même, figurez-vous, au sein de l'hôpital Sainte-Anne. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis infiltrée sur un forum de cataphiles, c'est-à-dire des fans de catacombes sur Facebook. Et donc, voilà, j'ai demandé où se trouvait la fameuse entrée dans l'hôpital Sainte-Anne. Donc, au début, je me suis fait jeter. Et puis, il y a un type qui a fini par avoir pitié de moi et qui m'a dit « Ok, je vous envoie la localisation sur GPS ». Et à partir de là, j'ai contacté un copain qui travaille à Sainte-Anne, et le professeur Gaillard, et je lui ai dit « Bon, Raphaël, est-ce que tu as entendu parler de ça ?» Il me dit « Mais moi, je la cherche aussi depuis des années. » Et donc, on a combiné comme ça nos connaissances, et c'est comme ça qu'on a trouvé cette entrée dont il a appris, alors que lui, il bosse à Sainte-Anne depuis 2010, qu'en fait, ce truc est absolument connu de tout le monde, et j'ai découvert comme ça que des gens aussi éminents que la grande Thérèse Lampérière, le professeur Lampérière ou Jean Delay allaient eux-mêmes, dans leur jeunesse, dans les catacombes de Sainte-Anne, voilà, pour se détendre et parfois pour se livrer. Jean Delay n'en a pas fait mystère, il l'a écrit, il a même expérimenté les psychédéliques, voilà, et dans ces endroits-là. Donc tout ça est tout à fait... Voilà, donc il ne faut pas faire un bad trip, en effet, Mazarine l'a dit, et voilà. Et c'est bien un bad trip qui va se produire à un moment donné dans le texte.
Je vous remercie toutes les trois. Ce sont des beaux voyages, vos trois romans. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Madame.
J'ai pas de questions, je voulais vous dire merci à toutes les trois, parce que c'est un moment fantastique. Franchement, les forums, c'est trop le pied. D'avoir expliqué votre travail, de comprendre vos démarches, c'est extrêmement intéressant, parce que quand on sait pas ces jeux, quand on lit après vos... Moi, j'ai pas lu vos trois œuvres, mais ça me donne super envie. Merci infiniment de ce moment de détente humain, tout à fait simple et tout à fait sincère. Merci pour ça, et vous m'avez donné envie... Alors, je vais faire péter la carte bleue, tant pis. Trois nouveaux romans à la maison. Mais enfin, des domaines où les femmes vivent et évoluent dans des secteurs, je crois pouvoir dire, très, très, très masculins. Et enfin, merci infiniment de traiter des sujets où les hommes sont encore, je crois, extrêmement, extrêmement présents. Et surtout de développer des pensées, et notamment pour l'IA, ça va me faire avancer sur ma réflexion personnelle. Donc merci infiniment d'être là et de nous avoir permis de partager votre travail. Merci.
Merci à vous.
Je peux,
juste dire, enfin, ça, pardon, c'est très pragmatique et très ennuyeux ce que je vais vous dire, mais en fait, je n'ai plus de livres à mon stand. Je vous préviens parce que vous allez me détester de ne pas m'y voir, mais je suis au chômage technique. Voilà.
Moi, il y en a encore plein.
Pareil, venez.